sommes plus des temps de huguenots où je dois vous dire que les dames aillent dans leur chignon chercher leur petite Bible. On peut les prendre librement, donc je vous invite à les ouvrir ensemble donc dans le livre de Deux Rois. Pour la première lecture, nous avons trois lectures. Donc ce matin, Deux Rois 7, les versets 3 à 9. Nous sommes dans une situation de siège, donc la ville de Samarie est assiégée par des ennemis. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous disons « entrons dans la ville », comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. » Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. » Jusqu'ici, la première lecture. La deuxième lecture, 1 Pierre 2, le verset 9. « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et un dernier texte dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 5, verset 1 à 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jusqu'ici, la lecture. Une lanterne à bougie ne peut pas briller sans feu. D'accord, hein ? Une lanterne avec une bougie sans feu ne peut pas briller. Et de même, ce matin, sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas comprendre, saisir et vivre la parole de Dieu selon sa volonté. Nous comptons donc sur la flamme du Saint-Esprit pour éclairer notre lanterne. Alors, comme nous sommes dans l'année des 10 ans de la constitution de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, nous avons entamé une série de prédications sur l'Église, avec pour titre « L'Église de Dieu, l'Évangile rendu visible ». Alors, pourquoi l'Église de Dieu ? Eh bien, c'est selon le texte de Actes 20-28, où il est dit, donc c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse, qui dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et nous disons que l'Église, c'est l'Évangile rendu visible parce que c'est le corps de Christ qui glorifie Dieu, qui manifeste de l'amour les membres les uns pour les autres et qui annonce la bonne nouvelle du salut au monde. C'est justement la mission 3D de l'Église. Souvenez, on avait parlé de la mission 3D de l'Église. Il faut se dire qu'il y a 3D. Et le premier D, eh bien, c'est servir Dieu dans l'adoration publique, le glorifier en mettant sa parole au centre. Le deuxième D, c'est servir dedans, où chacun, comme un corps, répond aux besoins des uns et des autres selon l'amour de Christ. Et le troisième D, servir dehors, étant témoin et annonçant la bonne nouvelle dans le monde. Et donc c'est cette troisième dimension de la mission de l'Église qui va particulièrement nous intéresser ce matin. Car l'Église, c'est la lumière de Christ dans le monde. La lumière de Christ dans le monde. Et nous commencerons par souligner la mission que nous avons reçue de Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, nous verrons comment nous sommes tous appelés à rayonner. Nous réfléchirons sur ce que signifie être la lumière du monde. Et nous terminerons en soulignant les deux principales raisons d'évangéliser. Alors, commençons par la mission reçue par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, avant de quitter ses disciples, Jésus leur a donné une dernière parole qui a résonné dans leur cœur, sûrement jusqu'à la fin de leur vie. Puis il s'en est allé de manière visible auprès du Père. Cette parole que Jésus a donnée à ses disciples était en fait puissante et précise. Il a assuré à ses disciples qu'il avait tout pouvoir. Tout pouvoir. C'est lui qui change les cœurs. Et il leur assure de sa présence jusqu'à la fin du monde. Et c'est là qu'il souligne clairement la mission des disciples, évangéliser. Évangéliser veut dire apporter la bonne nouvelle. Or, je suppose qu'un texte vous vient facilement à l'esprit avec ce que je viens de vous dire. C'est le texte de Matthieu 28, versets 18 et 19, qu'on avait d'ailleurs déjà vu ensemble lors d'une prédication dans cette série, où Jésus s'approche de ses disciples en parlant, en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez !» Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et versets 18 à 20, nous donne cet envoi. Mais nous trouvons également cela dans l'évangile selon Marc, qui souligne que la bonne nouvelle est même accompagnée de la toute-puissance de Christ. Comme cela s'est pleinement accompli avec les apôtres. Regardez avec moi dans l'évangile de Marc, Marc 16, verset 15 à 20. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà Marc qui nous donne la même mission. Et allons encore dans l'évangile de Luc, qui n'est pas en reste. L'évangile de Luc, dans le chapitre 24, rapporte également les paroles de Christ en lien avec cet envoi de ses disciples. Luc 24, verset 46, jusqu'au verset 48. C'est de nouveau Jésus qui parle à ses disciples et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations pour commencer à Jérusalem. » Et Le livre des Actes, qui est la suite des écrits de l'évangile de Luc, hein, puisque Luc est l'auteur de Luc et du livre des Actes, eh bien, il précise encore cette notion juste avant que Jésus s'en aille à l'ascension, dans Actes 1, versets 8 et 9, où il dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est les dernières paroles qu'ils ont entendues, les disciples. Vous allez me dire, ouais, on a parlé de trois évangiles, mais même l'évangile de Jean n'est pas en reste. L'évangile de Jean, à la fin de l'évangile, le dit de manière implicite, c'est-à-dire il ne le dit pas directement, mais il parle de la pêche miraculeuse avec les 153 poissons, peut-être ça vous dit quelque chose, eh bien, qui en fait représente l'évangile prêché à toutes les nations. Et Jésus leur avait d'ailleurs dit clairement déjà pendant les 40 jours de sa présence, hein, où il était ponctuellement avec ses disciples, et on lit dans Jean 20, verset 21, là, un texte explicite de ce que Jésus a dit à ses disciples, où il dit ceci, « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et ces paroles font clairement écho, en fait, à la prière sacerdotale dans Jean 17, où il disait, « Comme tu m'as envoyé, il parle au Père, hein, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Donc la mission donnée aux disciples qui forme l'Église, est claire. Hein. Cette troisième dimension du but de l'Église est limpide. Les quatre évangélistes sont unanimes à annoncer le message de l'Évangile. Et Jésus a donné l'exemple dès ses premières paroles. Les premières paroles dans l'Évangile de Marc sont intéressantes, parce que Jésus, non seulement à la fin de sa présence sur terre, mais dès le début, en fait, parle d'annoncer cette parole. Et ses premières paroles sont celles-ci. Il dit, « Étant... le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et Jésus l'a répété tout au long de son ministère, soit de manière directe ou soit par des images, comme on l'a lu dans Matthieu 5, 13 à 16, nous y reviendrons tout à l'heure, par rapport au sel et à la lumière. Et Pierre, connaissez Pierre, le disciple, connaît, il était souvent avec Jésus, il était tout le temps avec Jésus. Il était présent lorsque Jésus a dit toutes ces paroles. Eh bien, c'est pour ça qu'il dit ce que nous avons lu dans 1 Pierre 2, 9 tout à l'heure. Il dit ceci, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. » Et pourquoi il dit tout ça ?« Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et on remarque dans les termes utilisés ici, que ce sont tous des termes communautaires, c'est-à-dire une race, un sacerdoce, une nation, un peuple. En fait, c'est tous des qualificatifs qui, en fait, désignent l'Église de Jésus-Christ. L'Église, en fait, est la seule organisation officielle à avoir reçu la tâche d'annoncer l'Évangile dans la Bible. Ce qui signifie, en fait, que chacun dans l'Église doit se sentir concerné. Et là, des fois, j'aime bien me dire, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer? Alors, je vais vous faire demander un effort d'imagination. Vous essayez d'imaginer que vous étiez avec les disciples quand Jésus leur a donné ces paroles d'année annoncées à toutes les nations, la bonne nouvelle. Imaginez, mais là, avec lui, on a vu ce maire qui s'est donné, qui allait jusqu'à la croix, qui est ressuscité maintenant, qui est vivant. Et on commence à saisir petit à petit par de son esprit qu'il n'a pas... Il n'est pas dans une défaite, il est dans la victoire de l'Évangile. Et il nous dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Alors si on avait été présent, est-ce que notre attitude serait différente dans notre vie de tous les jours? Essayez de repenser à ça, quand vous lisez les textes, je suis présent là, est-ce que je réagirais à la même chose en ayant été présent que je le fais maintenant? L'Église a reçu une mission de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. Et cela, en fait, concerne chacun. C'est ce que nous voyons dans notre deuxième point, qui s'intitule « Tous appelés à rayonner ». Tous appelés à rayonner. Mais j'ai pas tellement de connaissances de Jésus-Christ et de la Bible, et de tout cela, je peux pas annoncer la bonne nouvelle. Vous vous rappelez de la prédication sur Jean 9? On avait vu qu'il y avait un aveugle né qui avait été guéri. Il ne connaît que très peu ou à peu près rien de Jésus-Christ. Mais il sait une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Eh bien, chaque chrétien peut dire aussi qu'il ne voyait pas son péché, qu'il ne se rendait pas compte qu'il était sur le chemin de l'enfer, mais que Jésus-Christ nous a ouvert les yeux et maintenant nous voyons non seulement le chemin de la perdition, mais également et surtout la voie du salut, la puissance de l'évangile de Dieu. J'étais aveugle et maintenant je vois. Rappelez-vous aussi la prédication sur Jean 4. Nous avons vu dans cette prédication les sept paroles de Jésus à la Samaritaine, qui étaient en fait sept attitudes utiles à l'évangélisation. Et que voyons-nous ensuite? Une femme, en fait, qui n'a pas un bagage théologique, la Samaritaine. Mais la Samaritaine sait une chose. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le libérateur? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que ce n'était pas le libérateur. Elle savait une chose et elle le dit. Et bien de même, chaque chrétien peut dire, il me montre mon péché et me libère. Ne serait-ce pas le libérateur? Dans le livre des Actes, nous voyons les apôtres qui annoncent l'évangile. Et cela signifie que les responsables d'église ont une responsabilité, particulièrement par la prédication, à annoncer l'évangile et à équiper l'église pour le faire. C'est vrai. Mais il y a un fait très intéressant dans Acte 8 ou verset 1, où il est dit en fait que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On comprend donc clairement que les apôtres sont restés à Jérusalem. Et voici ce qu'on lit au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Ça signifie qu'il ne fallait pas être apôtre pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Mais que tous ceux qui ont été touchés par la parole de Dieu avaient cette mission et annonçaient cette parole. Alors si vous êtes chrétien ce matin, vous avez ce témoignage. Si jamais c'est aussi écrit sur des petits papiers. Je suis né pécheur, avec une nature pécheresse qui me pousse à pécher et j'ai péché. J'ai choisi de vivre ma vie selon la volonté de Dieu. Et si j'étais mort dans cet état, je serais en enfer pour toujours. Mais Dieu a manifesté sa grâce envers moi. Son Fils Jésus-Christ est mort à ma place pour prendre la punition que je mérite. À un moment donné dans ma vie, il m'a permis de comprendre qu'il avait tout accompli pour mon salut. J'ai pu saisir ce salut par la foi dans la repentance. Et si maintenant je venais à mourir, j'irais au ciel. Sauvé d'un tourment éternel pour une joie éternelle. Viens à Jésus-Christ, confie-toi en lui. Chaque chrétien peut dire ce témoignage en fait. Chaque chrétien. Nous sommes appelés à planter, à arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Nous ne nous lassons pas de planter et d'arroser, hein, de rayonner. On est tous appelés à rayonner. Et ma prière est que par ce deuxième point, nous ayons compris que nous sommes tous appelés à rayonner de l'évangile. Passons maintenant à ce troisième point qui parle de l'Église, la lumière du monde. Alors Jésus, tout au long de son enseignement, appelle ses disciples à annoncer la bonne nouvelle. Et dans ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, on peut y revenir, hein, puisqu'on va parler de ce texte dans Matthieu 5, nous avons lu tout à l'heure, eh bien, nous voyons 8 attitudes à vivre qui sont présentées pour une évangélisation selon Dieu. C'est ce qu'on appelle en fait les béatitudes. Hein. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux le miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, ou les artisans de paix, comme nous l'avions vu, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et le texte continue au verset 13 en disant à ceux qui vivent cette attitude qu'ils sont le sel de la terre. Verset 14, la lumière du monde, comme une ville située sur une montagne. Verset 15, une lampe que l'on allume et que l'on ne passe pas sous un pot. Hein, le boisseau, c'était un pot de mesure. On ne met pas sous un pot quand on allume une lampe. Mais elle est appelée à éclairer la maison où on l'allume. Jésus nous dit, en Matthieu 5, 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Moi, j'aimerais réfléchir avec vous un instant sur la manière de briller, la manière d'évangéliser. Eh bien, la première manière, c'est de parler du salut aux perdus. Parler du salut aux perdus. Car briller, c'est éclairer, montrer le chemin. Comment voulez-vous que les gens se tournent vers Christ si personne ne leur en parle clairement. Rappelons-nous, hein, il ne s'agit pas de faire toute une explication théologique détaillée, mais d'annoncer le péché, la mort expiatoire de Christ, sa résurrection, qui assure la vie éternelle à toute personne qui se repent de son péché et place sa confiance en Jésus-Christ. Une première manière, parler du salut aux perdus. Une deuxième manière, c'est parler des perdus à Dieu. C'est une deuxième manière de briller. Car pour que la lumière soit reçue, il faut une action de Dieu qui a tout pouvoir. Est-ce que vous avez des personnes spécifiques pour qui vous priez régulièrement pour qu'ils se tournent vers Dieu, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière? Est-ce que vous priez spécifiquement pour ces personnes? Est-ce que vous savez qui est sauvé et perdu dans l'Église? Oh, on ne voit pas dans les cœurs, c'est vrai. Nous ne voyons pas dans les cœurs. Mais lorsqu'une personne passe par les eaux du baptême, elle manifeste le salut en Jésus-Christ devant tous. Et nous la considérons donc comme sauvée tant qu'elle n'est pas endurcie et accepte la discipline de l'Église, ce qui démontre que le baptême n'est pas un leurre. Et pour tous les autres, eh bien, nous devons prier pour leur salut. Lorsque des personnes se trouvent à la place, alors ça c'est un élément, hein. Deuxième chose aussi que j'aime encore vous dire, c'est lorsque des personnes se trouvent à la place purie et que certains annoncent l'Évangile, donc c'est une manière de briller, et que d'autres prient pour que des gens se convertissent. C'est une autre manière de briller également, et qui est importante, et qui va de pair. Et tout cela manifeste la gloire de Dieu. Une troisième manière de briller, bien, c'est de soutenir les actions d'évangélisation et de mission par des dons. Soutenir les actions d'évangélisation et de mission par des dons, que ce soit en temps, en argent, en encouragement, enfin, etc. Donc, par exemple, le travail que nous soutenons au Sri Lanka, par ce soutien que nous donnons au Sri Lanka, eh bien, nous participons avec eux au travail de l'annonce de l'Évangile. Et lorsque nous voyons toutes ces personnes qui se font baptiser, ben, notre cœur se réjouit, dit « Merci Seigneur, tu agis puissamment. » Et la quatrième manière de prier, c'est de vivre une vie sainte. Vivre une vie sainte. Je vais juste expliquer par une petite illustration. Avec Roland, nous avons vécu une retraite d'anciens dans un chalet d'alpage où il n'y avait pas d'électricité. Et nous avions entre autres une lanterne avec une bougie à l'intérieur. Les vitres, en fait, étaient propres et permettaient de rayonner et d'éclairer la pièce dans laquelle on se trouvait. Mais imaginez maintenant que les vitres de la lanterne soient sales, noires et qu'on ne voit pas à travers. Est-ce que la lumière pourrait éclairer le lieu où nous étions? Ben non, bien entendu. Eh bien, de même dans nos vies. Lorsque nous laissons le péché salir nos vitres, la lumière de Christ n'éclaire plus autour de nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre une vie sainte. Nous repentons de tout péché que Dieu nous révèle. Ainsi, la lumière qui est en nous, Jésus-Christ, par son esprit, brille et éclaire autour de nous. Vivre une vie sainte comprend l'action concrète et visible de s'aimer les uns les autres dans l'Église. Ce qui sera, selon Jésus-Christ, un puissant témoignage de l'Évangile rendu visible. S'aimer dans l'Église, c'est donc avoir les vitres propres, briller à la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu a choisi de manifester son Évangile par Jésus-Christ. Je crois qu'on est tous d'accord, ça. Hein? C'est par Jésus-Christ qu'il veut manifester son Évangile au monde. Eh bien, Jésus-Christ, il a un corps dans ce monde qui s'appelle l'Église. Et chaque membre de l'Église est un représentant de l'Église. Sans l'Église, qui est l'épouse de Christ ou le corps de Christ, il n'y a pas de lumière dans le monde. Sans l'Église, il n'y a pas de lumière dans le monde. Parce que l'homme, par lui-même, ne cherche pas Dieu. Il est dans les ténèbres. On va dans Romains 3. Il est dans les ténèbres et ne peut pas trouver le chemin de la vie éternelle par lui-même. Vous savez, on part tous les titres universitaires, être d'une intelligence reconnue, avoir une mémoire imbattable, n'avoir pas vécu d'échec apparent, et pourtant être perdu pour l'éternité. Tous ceux qui sont en Christ ont un jour entendu de quelqu'un d'autre la bonne nouvelle de l'Évangile. Que ce soit de vive voix, par la vidéo, un enregistrement audio, une lecture d'un traité, d'un livre, d'une Bible, etc. C'est vrai que j'ai entendu que Dieu utilisait parfois des rêves pour chercher des personnes dans les ténèbres du péché, particulièrement dans les endroits où la Bible est interdite. Mais ça ne s'arrête jamais là, en fait. Il y a ensuite un enseignement de la parole qui est donné par un témoin de Jésus-Christ. Il faut la lumière que Jésus place dans le monde. Il a fallu une lumière sur le chemin de chaque chrétien, une lune qui reflétait le soleil, hein, une lanterne rayonnant de la lumière de Christ. Et cette lumière dans le monde, c'est l'Église, avec tous ceux qui en font partie. C'est par son Église que Dieu se manifeste sur terre actuellement. Et il n'est pas limité par son action, car il est tout puissant, mais nous voyons clairement dans le Nouveau Testament que ce sont les membres de l'Église qui proclament la part de Dieu, qui propagent, qui font ainsi briller la lumière dans le monde. Et c'est en voyant les bonnes œuvres et ayant entendu que ces œuvres sont guidées par Christ, hein, parce que c'est bien de faire des bonnes œuvres, mais si les gens ne se rendent pas compte qu'elles sont poussées par Christ, ils ne vont pas glorifier Christ, ils vont glorifier la personne qui les fait. Alors que quand les personnes sont conscientes que ces œuvres sont faites parce que c'est Dieu qui le demande, parce que c'est Dieu qui en donne la force, eh bien on va glorifier notre Dieu. L'Église est une lumière qu'il ne faut pas mettre sous le boisseau. C'est une lumière à mettre sur le chandelier afin qu'elle brille. Soyons fiers de l'Évangile que nous proclamons. Soyons fiers. Alors soyons déjà fiers quand on est entre chrétiens de l'Évangile, pour ensuite être fiers aussi avec des personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Et même peut-être avec des personnes sont opposés à l'Évangile. Que Dieu nous vienne en aide, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin ensemble déjà d'être fiers de l'œuvre de Christ. Voyons maintenant le dernier point, les principales raisons d'évangéliser. Alors la première raison fondamentale d'évangéliser, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Parce que lorsqu'un pécheur est sauvé, Dieu est glorifié, puisqu'en fait c'est son œuvre. C'est totalement l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, transformé par la grâce de Dieu, vient au salut, c'est totalement l'œuvre de Dieu. Donc il est glorifié. Et lorsque nous annonçons l'Évangile, expliquant la situation terrible du pécheur perdu, annonçant avec joie l'œuvre de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour venir prendre la place du pécheur repentant, pour le purifier de ses péchés, sans même parler de l'héritage céleste et toutes les bénédictions que Dieu donne, eh bien, en disant tout cela, nous glorifions Dieu. Quelle que soit la réponse que la personne nous donne en face de nous. Parce qu'en fait, on a parlé de son œuvre. On croit parfois qu'on a glorifié Dieu uniquement si la personne répond. Alors, si la personne répond, on est très reconnaissant, il se réjouit. Et on le recherche, bien entendu. Mais Dieu est glorifié déjà lorsque nous annonçons son œuvre et son évangile. Donc la première et principale raison est que Dieu est glorifié lorsque nous évangélisons. Et cela est un puissant encouragement pour les moments où peut-être il n'y a pas de réponse. Parce que votre but premier, c'est de glorifier. Mais il y a une deuxième raison que nous voulons prendre avec. Et la deuxième raison d'évangéliser, c'est que les perdus ont besoin de salut. Les perdus ont besoin de salut. Si nous n'annonçons pas l'Évangile à ceux qui nous entourent, ils sont perdus pour l'éternité. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si ceux qui sont autour de nous n'entendent pas l'Évangile, ils sont perdus pour l'éternité. C'est terrible. C'est pas juste qu'ils perdent à la loterie. Pour l'éternité perdue. Les perdus ont besoin de salut. Est-ce qu'on agit de manière à ce que ceux qui sont autour de nous ne pourront jamais regretter de ne pas l'avoir entendu? Est-ce qu'ils ne regretteront jamais de dire « Ah, si tu me l'avais dit, si je l'avais su. » Eh bien, qu'ils ne regrettent pas jamais cela. Et nous, de jamais regretter de ne pas l'avoir clairement dit également. Combien de fois j'ai entendu des personnes, lorsqu'un ami est décédé subitement, dire « Mais j'aurais dû lui parler d'Évangile. » Et moi-même, je me suis pas dire « Mais est-ce que j'ai vraiment parlé d'Évangile ?» C'est pas pour ça que vous devez à chaque instant venir avec la Bible et dire tous les versets bibliques à chaque personne que vous rencontrez. Mais soyez des lumières qui brillent. On a vu 4 moyens de faire. Des lumières qui brillent autour de nous. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Que ceux qui sont autour de nous ne regrettent jamais de ne pas l'avoir entendu. Et que nous ne regrettions jamais de ne pas l'avoir clairement dit. J'aimerais voir avec vous une histoire qui nous fait réfléchir. Nous avons lu au début de ce texte, un texte dans le livre des Rois. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec ce qu'on est en train de parler? Eh bien, c'était au temps donc de Ben-Hadad, roi de Syrie, qui est venu assiéger la ville de Samarie. La famine était vraiment terrible. Ils n'avaient plus rien à manger. Et en fait, tout ce qu'ils trouvaient à manger, même des têtes d'âne, par exemple, coûtait très très cher. Et c'était si terrible que même des parents mangeaient leurs enfants. Donc, pour vous dire la famine qui régnait dans cette ville. C'est absolument horrible. Élisée annonce au roi, dans cette circonstance horrible, qu'il y aurait à manger à volonté pour le lendemain. Incroyable. Incroyable. Ça faisait des mois qu'ils étaient dans cette situation-là. Et l'officier royal n'y croyait pas. Vous imaginez être dans une pareille famine et le lendemain avoir de la nourriture à satiété. Mais même s'il ouvrait le ciel, est-ce qu'il y aurait assez pour manger? Comment Dieu peut-il sauver cette vie? Eh bien, c'est là que nous retrouvons nos quatre hommes lépreux que nous avons vus tout à l'heure, qui sont hors de la ville. Donc, étant lépreux, ils devaient vivre dans l'isolement. Et eux, ils ont aussi faim, horriblement faim, et vous pensez bien qu'ils ne reçoivent plus rien de la ville pour manger. Donc, ils sont dans une situation où ils vont mourir. Et ils réfléchissent et ils se disent, de toute façon, on va mourir. Donc, il vaut mieux aller se livrer aux Syriens. Parce qu'aller dans la ville, de toute façon, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien dans la ville. C'est la grande famine. Eh bien, on va aller se livrer aux Syriens en ayant pour seul espoir d'être épargné. Vous savez, c'est intéressant. Parce que dans une certaine mesure, toute personne non chrétienne cherche de la nourriture dans le monde, dans la ville, en famine. Et il n'y a aucun espoir. Se tourner vers le monde, il n'y a aucun espoir. Le seul, c'est de se tourner vers Dieu en espérant qu'il soit épargné. Et ce qui est différent que la situation des lépreux à cette époque-là, c'est que Dieu accueille toujours celui qui vient à lui dans une attitude humble. Et les lépreux, en fait, on les retrouve, arrivent au camp des Syriens, et là, qu'est-ce qui se passe? Personne pour les accueillir. Personne n'est là. Alors, vous souvenez, ils ont horriblement faim. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. C'est clair. Ils trouvent de la nourriture et ils mangent. C'est la fête. Puis après avoir mangé, ils commencent à voir qu'il y a des trésors. Et puis ils prennent ces trésors. Ils vont les emmener pour les garder pour eux, les cacher. Ils reviennent, ils vont dans une autre tente, ils voient les trésors, ils vont les cacher. Et tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a des milliers d'autres personnes qui meurent de faim tout près de là dans la ville. Ils vont donc apporter la bonne nouvelle à la ville afin qu'ils puissent voir la grâce de Dieu et être nourris. Ces hommes, en fait, sont au bénéfice d'un salut qui est une lumière pour tous ceux qui périssent dans la ville. Et comme une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée et ils prennent conscience qu'il faut immédiatement aller l'annoncer et ne pas attendre la fin de la nuit. Nous sommes quelque part une communauté de lépreux qui étions dans les ténèbres. Jésus-Christ a vaincu les ennemis et nous goûtons la vie en Christ. Manger, puiser dans les trésors. En fait, nous fêtons notre roi à chaque fois que nous nous trouvons ensemble, comme ce matin en culte, où nous lisons sa parole, où nous y puisons, où nous nous réjouissons. Mais pendant que nous fêtons, il y a des gens affamés. Ils n'ont rien qui les nourrisse. Rien qui ne les amène au pardon de leurs péchés, à leur purification de leur conscience. Et le jour arrive bientôt. Tous mes péchés sont pardonnés. J'ai reçu un héritage qui ne se corrompt pas. Et je peux partager sans rien perdre. Ça, c'est extraordinaire. Je peux le partager sans rien perdre. Pourquoi le garder pour nous-mêmes? Allons. Et c'est vraiment ça qu'on veut prendre avec nous ce matin. Allons partager la bonne nouvelle autour de nous, par les différents moyens que Dieu vous met à cœur, selon vos caractères, selon votre situation où Dieu vous place. Il n'y a pas à comparer, se dire je dois faire comme un autre, comme ceci, non. Mais à rechercher devant l'Éternel, je désire que ceux qui sont autour de moi te connaissent. Montre-moi, aide-moi, je veux être prêt à faire ce que toi tu désires, pour qu'ils puissent l'entendre, le lire, le comprendre ou l'écouter d'une manière claire et ne jamais regretter de ne jamais l'avoir entendu ou de ne jamais l'avoir dit. Amen. Nous allons prier. Notre Père éternel, c'est toi qui donnes le salut et nous nous réjouissons de ton œuvre. Permets que nous soyons zélés, remplis de ton amour, de gratitude, de joie et de zèle pour partager cette belle nouvelle de Jésus-Christ. Dans le bon nom de Jésus-Christ.